liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 18, année 2015. Salut Manu.
Salut Luc.
Mais encore une petite revue de presse, 6 articles seulement.
C'est normal, c'est le début du mois de mai, donc...
C'était déjà normal la dernière fois.
Exactement, mais comme qui dirait, ça se poursuit. Donc on a quand même 6 articles, 6 thèmes principaux. Donc les brevets logiciels, la loi sur le numérique, la loi sur le renseignement, l'Europe et la surveillance de masse, l'open data et la France à l'international, on pourrait dire. Et pour finir, un article sympa sur la réparation de tracteurs ou de voitures.
IT Espresso, brevet Microsoft fait fructifier le trésor Android, un article de Clément Bohic.
Donc les brevets logiciels, on en parle parce que ça nous concerne beaucoup.
C'est quelque chose, une des illustrations des effets néfastes des brevets logiciels, et quelque chose qu'on évoque régulièrement dans la revue de presse, qui est toujours bon de rappeler. Android, c'est ce système d'exploitation qu'on retrouve sur tous les téléphones de type Samsung, etc. Android.
Libre, donc du logiciel libre basé sur le noyau Linux et fait par Google essentiellement.
Voilà, pas que du libre, hein, mais en tout cas qui repose sur du libre, et fait par Google, lancé par Google. Microsoft n'est pas intervenu dans le développement d'Android.
Loin de là.
Mais il se fait des gonades en métal précieux avec, puisqu'il a des brevets sur les technologies qui sont derrière. Et en fait, il rançonne tous les constructeurs de téléphones. Évidemment, il ne va pas se frotter à Google, ils sont trop forts. Mais il va voir les constructeurs chinois de téléphones et leur dit, bah, vous utilisez des brevets qui sont à nous, donc maintenant, il faut cracher.
Donc là, c'est une nouvelle victime, Kisda, donc la marque BenQ. Et effectivement, il crache. Alors, on suppose quelques euros par téléphone portable, ce qui n'est pas rien. Et ça constituerait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel pour Microsoft.
Oui, oui. Sur les téléphones, on avait vu des cas jusqu'à 15 $ par téléphone construit. Il fallait même pas que le téléphone soit vendu. Donc c'est énorme, hein, c'est des sommes considérables.
La mafia, il n'y a rien de tel. Hein.
Voilà, alors il rappelle que les téléphones Microsoft sont en légère perte, hein, c'est-à-dire que Microsoft perd un peu d'argent, ils perdent quelques cents par téléphone construit. Et en revanche, les téléphones qui ne sont pas les leurs, les téléphones qui ne vendent pas, leur rapportent des fortunes. C'est rentable, en gros, ils ont 95% de marge sur cette activité. Enfin, c'est juste du parasitisme, hein, donc c'est...
Ils font travailler des avocats.
Voilà, donc c'est très rentable, 95% de marge. Le truc intéressant, c'est également qu'ils se débrouillent pour que personne ne sache quels sont les brevets qui sont enfreints.
Moi, j'imagine bien Microsoft qui vient chez toi et qui te fait, bah voilà, vous enfreignez mes brevets. Ah bon, oui, mais on va pas vous donner la liste. Par contre, il va falloir payer. Alors, on suppose quand même qu'à un moment donné, cette liste, elle a dû apparaître.
Mais effectivement, dans l'accord qu'ils négocient, ils doivent, je suppose, mettre des conditions disant vous ne les révélerez pas.
Alors, il semblerait que ça a fuité. Il y a
au moins pour une partie d'entre eux. Ouais.
Voilà, des listes qui ont été compilées par les gens du libre comme nous et ils ont
par l'État chinois. Non, c'est au travers d'un procès qui a eu lieu. Une partie des brevets a été rendue publique dans le procès et l'État chinois, évidemment, pour aider ses entreprises, a largement communiqué là-dessus.
Donc, c'est les libristes qui ont repris la chose pour essayer d'organiser un petit peu tout ça et puis voir.
Et pour trouver des solutions qui ne fonctionnent pas sur les brevets de Microsoft.
Alors, ça a l'air d'être pas simple hein, parce que les brevets logiciels, ça protège des idées. Donc, contourner les idées, c'est pas toujours. Facile, ouais. C'est la galère.
Il y a quelques temps, on disait que Microsoft, a priori, ce super business était en train de reculer parce que, notamment aux États-Unis, la Cour suprême avait un $1000 sur les brevets, etc. Manifestement, la bête bouge encore. Hein. Next Impact, loi numérique, le rapport du CNNUM se fait encore attendre, un article de Xavier Bern.
Conseil national du numérique.
Donc c'est cette institution qui avait été montée par Sarkozy, dont on avait dit qu'elle servirait à rien.
Mais avec des gens bien pourtant, hein, dans le lot.
À l'époque, quand Sarkozy l'avait montée, c'était purement entreprise. On n'a rien contre eux, mais effectivement, ils n'ont servi à rien. Hollande arrivant au pouvoir, il y a eu un peu une réforme où ils ont un peu élargi l'assiette. Il n'y a pas que des entreprises dedans. On a des gens qu'on connaît bien et qu'on estime qui sont rentrés dedans. On leur a dit, qu'est-ce que vous allez faire là-dedans?
Donner des conseils.
Voilà.
C'était ça l'idée à l'origine.
Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a une loi sur le numérique qui est censée sortir. Next Impact en parle très régulièrement. On en a parlé dans la revue de presse.
Mais ça traîne.
C'est l'arlésienne. C'est non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite.
Ils sont occupés. Il y a plein d'autres choses à faire. Tu comprends. Le temps des députés est déjà occupé.
Voilà, ils sont en train de voter des lois liberticides, donc ils n'ont pas que ça à faire. Ce rapport qui doit être pondu par le Conseil national du numérique, le gouvernement, enfin en tout cas le ministère, dit non, mais on n'a pas besoin de ce rapport-là pour faire notre loi. Il n'y a aucun problème, puisque que ce rapport lui-même est repoussé, mais en même temps, il montre qu'il y a quand même une corrélation, et on se dit que ben, s'ils n'ont pas besoin de ce rapport, c'est bien que ce machin, cet anonyme, ne sert à rien. Enfin bref, donc voilà, donc ils se moquent un peu quand même.
Alors ça, nous, ça nous intéresse parce que ça parle d'open data, protection des données privées, les télécoms et autres choses sur le net, hein. Donc c'est pas tout de suite du logiciel libre, a priori, encore que open data, faut voir, et les jeux d'argent. En tout cas, c'est un peu un pot pourri, hein, et pour l'instant, bah, on ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans, parce que bah, ça n'a pas encore été écrit. Pour le coup, il y a une loi qui, elle, bah, on la connaît un peu plus précisément.
Oui. Next Impact, loi renseignement, Bernard Cazeneuve répond à la CNCDH. Répondons à Bernard Cazeneuve, un article de Marc Ress. Donc, évidemment, ça parle de la loi sur la surveillance. Nous, on enregistre lundi soir, le 4, c'est voté normalement de façon définitive demain, le 5. Il y a de fortes chances que ça passe, malheureusement.
Oui, bah oui, il y a quasiment tous les députés de la majorité et de l'opposition qui sont pour.
Voilà, donc la CNCDH, c'est la Commission nationale des droits de l'homme.
Commission nationale consultative
des droits, pardon.
Et justement, ils viennent d'être consultés, mais à l'arrache.
À l'arrache, et vite fait, etc. Et ils ont dit des trucs. Et donc, il y a eu des réponses de Cazeneuve aux remarques de cette commission qui n'était pas tellement d'accord, voire pas du tout d'accord avec cette loi.
Ah non, ils n'ont pas l'air d'aimer du tout. Hein.
Et donc, Next Impact, hein, qui fait toujours des articles de très bonne qualité, là, fait un truc très long où ils reprennent tous les éléments. Et
ils reprennent en gros toutes les remarques de Cazeneuve.
Et donc, démontent tout son argumentaire en montrant toute sa mauvaise foi. C'est un long article, très complet.
Moi, j'ai pas tout fait hein, pour l'instant.
Mais voilà, donc si vous voulez savoir vraiment rentrer dans le détail et avoir des arguments vraiment costauds.
Et puis voir un exercice de réponse à des gens qui sont de mauvaise foi, c'est super intéressant.
Ouais, effectivement. J'ai vu passer des trucs aussi dans la presse étrangère, notamment aux États-Unis, où ils disaient ouais, en gros, le gouvernement français dit que c'est pas le Patriot Act à la française, mais quand on regarde la loi, c'est
pire
exactement
quasiment,
ça.
Hein.
Voilà.
Avec des limites, genre, mais c'est, on va vous mettre des limites, mais c'est nous qui définissons les limites.
Voilà,
hein, donc
puis
vous
si
vous
on est pressé,
pas.
Vous avez pas, on n'a pas besoin de les respecter.
Non, bah voilà. Oui, parce que tu comprends, il y a des trucs vraiment importants. Et puis au début, c'est pour le terrorisme, mais finalement, ça concerne aussi les intérêts économiques et puis va savoir
et
quoi d'autre.
Le banditisme organisé.
Et puis le droit d'auteur, je crois qu'à un moment donné, il est question que ça puisse rentrer dedans, hein, c'est du banditisme, monsieur.
Oui, peut-être.
Voilà, bah, c'est tellement flou de toute façon.
Et on sait le principe, hein, c'est qu'en gros, on fait ce genre de système et puis c'est un pied dans la porte et puis après, on va élargir petit à petit en disant mais rendez-vous compte en utilisant évidemment les événements qu'il va y avoir à droite, à gauche, etc. Donc, un article, si vous voulez vraiment rentrer dans le fond du sujet et avoir des arguments en béton et vraiment connaître le sujet, c'est un article à lire. Par contre, voilà, va falloir
prendre un peu de temps. C'est un peu long, bah,
c'est du sérieux.
En même temps, les droits de l'homme, c'est important. Et,
voilà,
effectivement,
et le travail de Next Impact là-dessus est vraiment admirable. C'est pas de la vulgarisation, c'est tout à fait compréhensible, hein, c'est pas des trucs juridiques imbitables, mais faut y aller si on a envie. Développé.com, l'Europe veut lutter contre la surveillance de masse, un article de Michael Guillou.
On continue sur les problèmes de vie privée et d'institutions.
Alors c'est rigolo puisque la France est en train de mettre en place de la surveillance de masse et l'Europe veut faire l'inverse.
Oui, effectivement, parce que l'Europe constate qu'il y a des problèmes de surveillance, d'espionnage et que la solution à mettre en place et que l'Europe doit mettre en place elle-même au niveau de ses institutions et de ses administrations, c'est du logiciel libre tout simplement.
Et oui, c'est fabuleux. Il parle même de financer du logiciel libre pour faire des solutions qui permettent de communiquer de façon sûre, de telle sorte que même nos services secrets ne puissent pas lire nos communications.
C'est
assez
c'est
rigolo
troublant,
de voir.
Hein,
ouais, on a deux mouvements totalement antagonistes.
Ah. En même temps, eux, ils se défendent parce que justement, ils se rendent compte que les Américains nous surveillent, nous, les Européens, leurs alliés les plus proches. Et tout ça, bah, on le sait grâce aux divulgations d'Edward Snowden.
Voilà.
Bah, on sait que bah, même les dirigeants européens ne sont pas à l'abri et loin
et
de là.
Et même les Européens se sont espionnés entre eux puisqu'on a appris cette semaine
NSA,
que...
Hein,
voilà. Que les services secrets allemands avaient travaillé avec la NSA, qui surveillait Merkel de toute façon, mais pour espionner les Français. Donc, en gros, ils jouent les uns contre les autres.
Et ça marche bien.
Comme ils ont plus d'informations, ils les négocient. Et tout le monde peut avoir ses bribes d'informations. Finalement, ils espionnent le voisin, etc. Enfin, c'est quand même un truc complètement
c'est
hallucinant.
C'est atroce. Hein. Honnêtement, c'est juste tout pourri. Mais là, au moins, il y a peut-être des pistes de solutions. Et on en parle depuis un moment. Les problèmes de vie privée et de surveillance qui nous tombent dessus depuis qu'on les connaît, hein, en gros, eh bien, sont en partie résolvables. En tout cas, notre moyen de combattre ces soucis-là, c'est le logiciel libre. Il n'y a pas 36 solutions.
Ouais, et les bonnes manières de s'en servir, parce
alors,
que
après, bien
ça
sûr,
nécessite
hein,
quand même d'avoir,
et justement,
de s'éduquer là-dessus.
C'est ce que dit l'Europe. Hein. Il faut financer, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de failles, il faut les trouver ces failles-là, et il faut mettre vraiment de l'activité dans le logiciel libre. Hein. Ce n'est pas juste un mot, il faut derrière pousser un petit peu au cul.
Voilà, et on retrouve les arguments classiques en disant bah, que le logiciel libre, il y aura autant de bugs que dans du logiciel propriétaire, mais on peut auditer le code, les erreurs vont remonter plus vite, on ne peut pas cacher la misère sous le tapis, donc ça va dans le bon sens. L'Obs, la France rit de se voir si open en son miroir, un article de Romain Prudent et Rémi Noyon.
On rebelote les institutions françaises, mais là c'est un article grinçant sur l'open data et la position de la France à l'international. On est président de je ne sais plus quelle commission, un truc où il y a 65 pays qui font de l'open data et la France est mise en tête de ce groupe-là au niveau international.
Le fond de l'article, c'est de dire la France est extrêmement forte pour faire de la bureaucratie, faire de l'affichage, mais a beaucoup de mal à passer à la pratique.
Alors ceci dit, sur l'open data, mais c'est grinçant, donc l'article a quand même une orientation un peu étrange, mais sur l'open data, la France montre et fait acte de bonne pratique, donc on a mis en avant beaucoup de choses, il y a plein de choses qui sont partagées par l'État, pour les citoyens et les entreprises, on utilise des licences plutôt libres, donc l'article cite même l'ODBL, donc sur les bases de données, il y a des choses vraiment pas mal, et la France est quand même championne d'une certaine manière, c'est juste que...
Elle se donne les moyens, alors dans les arguments que la France met en avant pour justifier sa position, c'est de dire nous on a un bel État centralisé, et donc quand on lance le rouleau compresseur, on arrive à faire des choses assez importantes. L'autre truc, c'est que l'État se serait aperçu que comme ils ont du retard là-dessus, et que l'open data était un moyen de faire du business, donc le monde plutôt anglo-saxon a commencé à prendre des positions dans les pays un peu satellites économiquement, et que donc du coup, il faut y aller quoi. Et avec cette idée que du côté du monde anglo-saxon, l'open data est vu dans une optique assez néolibérale, en disant en faisant de l'open data, on fait moins d'État,
et
donc
allège,
on est dans l'idée du marché et de moins d'État, etc. Et qu'il y aurait un modèle français qui serait avec de l'open data, on fait de l'État plus efficace, moins cher, mais pas moins d'État, mais mieux complémentaire.
Donc certains se plaignent que tout ça c'est des effets d'annonce. Hein. Alors Tanguy Morlier, ancien président de l'April, et s'occupe de Regards Citoyens, bah, il creuse là-dedans et il voit bien que oui, bah, ça parle. Hein. Et puis c'est vraiment de l'annonce, de la position, on se positionne bien à l'international, c'est beau, c'est propre, c'est cocorico. Le ton est grinçant et assez étrange, on n'a pas l'habitude de voir un article comme ça qui...
En fait, voilà, c'est des journalistes de Rue 89, manifestement, il y a une sorte d'arrangement entre l'Obs et Rue 89, donc on est quand même sur quelque chose d'assez militant, hein. Rue 89, ils sont quand même assez connus pour ça. L'Obs, à nouveau, toujours Rue 89, je suppose, réparer un tracteur, une voiture, illégale selon les constructeurs, un article d'Andrea Fradin. Donc ça se passe évidemment aux États-Unis.
Avec un titre quand même bizarre, racoleur, je sais pas si on pourrait dire ça, parce que parler de tracteur et de voiture, c'est un peu étrange. Et en fait, effectivement, aux États-Unis, dans le monde entier, on se rend compte que dans nos moyens de transport, il y a de plus en plus d'informatique. Et les constructeurs d'informatique, eux, ils ont un argument qui est intéressant.
C'est les constructeurs automobiles eux-mêmes, parce que
c'est les constructeurs
ils laissent pas ce genre de choses à des éléments extérieurs. C'est vital. Avant, il y avait des câbles. Alors, on voit des câbles en acier, puis des câbles électriques. Et maintenant, on est vraiment sur ce qu'on appelle un bus informatique. Alors, évidemment, dans le transport, on est un peu perdu. Mais disons que c'est un système informatique, une sorte de réseau, une sorte de mini-internet dans la voiture qui va communiquer entre les différents éléments, les différentes parties du moteur, les freins, les feux et tout ça.
Et dans tout ça, il y a du logiciel en grosse quantité.
Et donc, aujourd'hui, quand on veut réparer sa bagnole ou son tracteur quand on est un exploitant agricole, eh bien, on a besoin de mettre les doigts là-dedans. Et eux, ils disent, non, c'est du code, c'est du logiciel. Donc, on se met derrière les lois de protection
du droit d'auteur,
et ce genre de choses. Et aux États-Unis, le DMCA, qui gère ces questions de copyright, ils disent, il est interdit de réparer soi-même son tracteur, ceci, cela, parce que ça enfreint notre propriété sur le code.
Donc, c'est un truc qui est vraiment embêtant, parce que ça allège les droits de propriété physique sur les véhicules. Hein. Le véhicule vous appartient, mais pas ce qui tourne dessus, c'est quand même embêtant. Et c'est une problématique qu'on rencontre partout avec le logiciel propriétaire, rien de nouveau. Il y a des exceptions qui sont demandées, alors je crois que c'est la Bibliothèque nationale américaine qui s'occupe de ça, la Bibliothèque du Congrès, peuvent mettre des exceptions, et ils pourraient envisager de mettre des exceptions aux droits d'auteur dans ces contextes-là. Mais ça n'empêche, on voit un cas toujours bizarre de surusage de la protection qui leur est offerte.
Bah, ce que je trouve intéressant, enfin, il parle également des constructeurs automobiles qui veulent aussi rentrer dans la brèche. C'est qu'on se souvient quand on a parlé il y a quelques mois de Jeremy Rifkin qui disait « Ouais, le monde, ça va être juste bientôt que de l'information ». Moi, je suis toujours dubitatif parce que la matière, c'est quand même là. Mais là, c'est une bonne illustration de comment la partie information, système d'information, finalement, se place en amont, quoi, en position supérieure sur la matière, et que si on n'a pas le contrôle du système d'information, on perd le contrôle du matériel. Le matériel reste complètement vital, hein, mais on pourrait imaginer un jour avoir des tas de matériel qui soient complètement inutilisables juste parce que le logiciel est dépassé, ne fonctionne plus, quoi.
Et c'est bien le cas, hein, avec tous ces cas-là, donc on est bien embêté et il faut se mettre au logiciel libre.
Très bien, on a fait le tour, merci Manu.
Je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vinault.